Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc on va sans attendre hein, commencer cette deuxième session, deuxième séance consacrée à la thématique intériorisation pardon, et conduite en écoutant Martine Cour qui va nous présenter, c'est ça, hein, ouais, son travail, le travail collectif qu'elle mène avec Sophie Denave, Frédéric Giraud et Marianne Wolven. Voilà. On vous écoute ? Oui, bien sûr.
Merci. Donc effectivement, c'est bien moi qui fais la présentation, mais le travail que je vais présenter a été écrit à quatre mains, donc avec Sophie Deneuve, Frédéric Giraud et Marianne Wolven. Alors dans les travaux sur la socialisation primaire, la question des processus à travers lesquels les enfants construisent leur représentation de l'argent et apprennent à utiliser cette ressource, cette question elle est assez largement sous-étudiée. On dispose de quelques travaux sur cette question, mais ils se situent pour la plupart dans une perspective de psychologie développementale et du coup ils ne disent quasiment rien sur les processus de socialisation. C'est-à-dire que c'est des travaux qui cherchent à dégager différents stades dans l'acquisition des connaissances et des représentations de l'argent. Par exemple, à identifier à quel âge en moyenne est-ce que les enfants comprennent le principe de l'échange marchand, par exemple. Mais ces travaux ne disent rien sur les processus qui sont à l'origine de cette acquisition. Pourtant, donner à voir cette socialisation à l'argent au cours de l'enfance revêt une importance majeure. Contre un certain nombre de représentations communes, c'est en particulier un moyen de montrer que le rapport à l'argent n'obéit à aucune loi naturelle, que le goût pour l'argent, par exemple, ou le calcul rationnel des coûts et des bénéfices ne sont pas des conduites spontanées, c'est-à-dire nécessaires, mais bien des conduites socialement construites, donc contingentes. Dans cette présentation, je me propose de décrire et analyser cette socialisation enfantine à l'argent en me situant à un âge précoce, puisque je vais parler d'enfants de 5 ans. Alors, au premier abord, 5 ans peut apparaître comme un âge trop précoce, précisément, pour étudier la socialisation à l'argent. La plupart des enfants de cet âge ne maîtrisent pas le fonctionnement de la monnaie. Ils ne possèdent pas non plus les compétences qui permettent de s'en servir, en particulier la maîtrise des opérations de calcul élémentaires. Et puis, ils ont peu, voire pas du tout, d'occasion de manipuler eux-mêmes de l'argent, puisque c'est les adultes qui réalisent la plupart des achats dont ils ont besoin. Pourtant, à y regarder de plus près, une analyse de la socialisation à l'argent est bien possible dès cet âge-là, dans la mesure où les enfants, dès 5 ans, font déjà un ensemble d'expériences qui contribuent à façonner leur perception de l'argent et même leur manière d'en user. Pour le montrer, je vais m'appuyer sur une enquête par entretien qui a été réalisée donc dans des familles comprenant au moins un enfant de 5 ans. Cette enquête est une enquête collective qui a été réalisée entre 2015 et 2017 par une quinzaine de chercheurs et de chercheuses. Plusieurs sont présents ici aujourd'hui. Et cette enquête, elle était consacrée à la socialisation enfantine en général dans plusieurs domaines de pratique. Le langage, la socialisation, donc langagière, la socialisation scolaire, la socialisation à la santé. Il y avait toute une série de pratiques qui étaient mises à l'étude dans ce travail, dont l'argent, et donc c'est exclusivement ça dont je vais parler ici. Alors, deux mots sur le dispositif d'enquête. On a enquêté dans 35 familles en s'efforçant de faire varier le plus possible les positions de ces familles à l'intérieur de l'espace social. Et dans chaque famille, on a réalisé plusieurs entretiens longs, trois au moins avec les parents, un avec l'enseignant de l'enfant, donc l'enfant est en grande section de maternelle au moment où on enquête, et un entretien avec une autre personne de l'entourage de l'enfant qui était souvent une nounou ou une grand-mère, quelqu'un de proche de l'enfant. Dans ces entretiens, on a abordé la thématique de l'argent de deux façons différentes. On l'a fait d'abord en interrogeant les parents sur les usages de l'argent par leur enfant. On leur a demandé si leur enfant possédait de l'argent, s'il en avait, par quelle voie est-ce qu'il l'avait obtenu, comment il l'utilisait, ce que eux, parents, disaient à leur enfant au sujet de l'utilisation de cet argent. Et puis d'autre part, on a aussi investigué en demandant aux parents de nous décrire des situations d'achat destinées aux enfants ou réalisées en leur présence, Et on cherchait à saisir les discours auxquels ces situations donnent lieu au sujet de l'argent. L'analyse de ces matériaux montre que la socialisation des enfants à l'argent, elle revêt des contenus différents d'un lieu à l'autre de l'espace social. Elle permet de faire apparaître, en l'occurrence, quatre ensembles de pratiques parentales situées dans quatre lieux assez clairement identifiables de l'espace social et susceptibles d'engendrer chez les enfants quatre types de dispositions à l'égard de l'argent. Et donc, c'est ces quatre points que je vais présenter successivement. Premier point, dans les familles de classe populaire, les moins dotées économiquement de notre population, la socialisation des enfants, elle se caractérise le plus souvent par la transmission de dispositions économes. Je dis bien le plus souvent parce qu'il y a quelques cas qui ne collent pas avec ce que je vais dire ici. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, de qui je parle quand je dis des familles de classe populaire les moins dotées sur le plan économique? Je parle de familles où les parents sont ouvriers ou employés, éventuellement et en fait assez souvent chômeurs ou inactifs, et avec des revenus limités, soit parce qu'un seul parent travaille et parfois aucun des deux, soit parce que les parents exercent une activité à temps partiel. À titre indicatif, la famille la plus favorisée de ce groupe sur le plan économique, c'est une famille où les revenus salariaux des parents se montent à 2400 euros par mois pour un foyer avec deux adultes et deux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ces familles du point de vue de la socialisation à l'argent qui m'amène à parler de transmission de dispositions économiques ? D'abord, dans la plupart des cas, les adultes ne donnent pas d'argent aux enfants dans ces familles, ni sous forme, enfin pas sous forme de cadeaux, sous forme d'argent de poche, rien de tout ça. Et donc, ils ne les invitent jamais à payer eux-mêmes des petites dépenses que les enfants pourraient réclamer. Ensuite et surtout, quand les enfants demandent du coup à se faire acheter quelque chose, les parents refusent le plus souvent de répondre à leurs demandes, et quand ils acceptent, ils les invitent très régulièrement, voire systématiquement, à choisir quelque chose de pas cher ou à choisir quelque chose de moins cher. Et dans les familles les moins dotées, plusieurs parents disent explicitement à leurs enfants qu'ils ne peuvent pas acheter ce que l'enfant demande parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou parce qu'il faut réserver l'argent pour acheter les biens de première nécessité. Ce que font également ses parents, c'est pendant les courses alimentaires, les courses de tous les jours, ils montrent régulièrement aux enfants des techniques permettant justement d'acheter des choses bon marché. Par exemple, ils leur apprennent à comparer les prix sur les étiquettes, donc à regarder les prix et à choisir le produit le moins cher. Ou encore, ils leur expliquent le principe de la marque, enfin la marque du magasin, donc le produit sans marque, et le fait que ces produits-là sont systématiquement moins chers, donc il vaut mieux les choisir. Enfin, dans ces familles-là, ces invitations à explicites ou implicites, diffuses, ces invitations à se montrer économes, elles se doublent parfois de discours qui invitent les enfants à relativiser l'importance de l'argent et de ce qu'il permet d'acquérir. Ça, c'est dans les familles les plus dotées de ce groupe, en fait, qu'on l'observe. On le voit par exemple chez l'une des mères enquêtées, qui est coiffeuse et son conjoint est ouvrier. Et elle raconte, cette mère, que ses grands-parents paternels, qui ont eu un rôle important dans son enfance, étaient des petits paysans pauvres qui avaient un mode de vie très frugal. Et elle explique qu'elle tient à transmettre ça à ses enfants. Elle dit, en gros, ce qu'ils disaient mes grands-parents, c'est « ça sert à rien d'en avoir de trop, vaut mieux aider ceux qui sont dans le besoin ». Eux, mes grands-parents, c'était vraiment ça, parce qu'ils avaient vraiment une toute petite maison, ils vivaient avec un minimum de choses. Et je voudrais essayer de faire comprendre ça aux filles, de leur dire « ça sert à rien d'en avoir de trop, on peut s'amuser avec des choses simples et passer des bons moments ». Ces injonctions à l'économie et à la sobriété, elles ont des effets sur les enfants qu'on peut saisir dans les entretiens. D'abord, parmi les enfants de ces familles, plusieurs se sont déjà appropriés les savoir-faire et même les habitudes économes de leurs parents. On le voit par exemple dans le cas d'un enfant qu'on a appelé Hacham, qui est un des enfants dans une des familles les plus pauvres de notre population. Sa mère est réfugiée du Sri Lanka, elle vit en France depuis une dizaine d'années en étant sans papier. Elle vit seule avec son fils, et au moment où on les rencontre, ils vivent dans un foyer pour sans-abri, et la mère n'a quasiment aucun revenu. Et la mère de ce petit garçon raconte que son fils, donc qui a 5 ans, son fils repère systématiquement dans les magasins les prix bas. Et les prix bas, pour lui, ça veut dire les choses à 1 ou 2 euros. Et donc, il repère ça et qu'il dit à sa mère, regarde maman, c'est pas cher, c'est 1 ou 2 euros. Et qu'il fait la même chose sur les publicités qu'elle reçoit dans la boîte aux lettres. Il regarde ces publicités et il indique à sa mère, ça c'est pas cher, c'est seulement 1 euro. Ça veut donc dire que ce petit garçon qui a des difficultés à parler le français, il est capable de lire les prix et qu'il sait à quoi correspond la somme de 1 euro ou 1 ou 2 euros. Il sait à quoi ça correspond et que ça correspond à quelque chose de pas cher. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut remarquer. Deuxième chose qu'on peut remarquer chez les enfants de ce groupe, c'est que la plupart d'entre eux ont intégré un sens des limites qui les conduit à ne rien réclamer à leurs parents ou à réclamer seulement des choses peu coûteuses, non seulement par renoncement à ce qui leur sera vraisemblablement refusé, mais aussi sans doute parce qu'ils peuvent percevoir que ces demandes d'achat créent une certaine tension chez leurs parents. Et ce qui autorise à dire ça, c'est que cette tension, on l'entend dans les entretiens à plusieurs reprises. Quand l'entretien aborde la question de l'argent, on entend, nous enquêteurs, que ça crée une tension chez les... Cette thématique crée une tension chez les parents. Et donc, on peut supposer que les enfants aussi perçoivent cette tension-là. Cet apprentissage de la sobriété, je l'ai dit, il s'observe dans la plupart des familles de ce groupe, mais pas chez la totalité d'entre elles. Dans quelques cas, les parents ont plutôt tendance à signifier aux enfants que leurs désirs de consommation sont tout à fait légitimes, et plus encore que eux, enfants, ont les mêmes droits que leurs camarades du même âge de ce point de vue. Donc, faute de temps, je me contente de mentionner ce point-là. Ici, je ne le développe pas, mais je pourrais y revenir plus tard si vous le souhaitez. Dans les familles situées au pôle culturel, maintenant des classes moyennes et supérieures, donc on change de lieu de l'espace social, on peut observer un deuxième type de socialisation à l'argent qui se caractérise par la transmission de ce qu'on peut appeler un rapport réflexif et planificateur à l'argent. Ici, les parents ont tous connu des scolarités relativement longues. Ils sont pour la plupart eux-mêmes issus des classes moyennes et supérieures. Et du coup, ils ont vécu eux-mêmes des expériences socialisatrices propres à leur faire intérioriser des dispositions planificatrices, et notamment en ce qui concerne la gestion de l'argent. Par ailleurs, ces parents ont tous une certaine proximité avec les milieux éducatifs, soit par leur propre profession, soit par celle de leurs conjoints, soit par celle de leurs ascendants. En lien avec cette caractéristique, ils sont enclins à croire que les enfants peuvent faire des apprentissages, notamment l'apprentissage de l'argent de manière précoce, et que les enfants sont capables de ça. Et de fait, ils mettent en œuvre des pratiques qui favorisent cet apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Dans la plupart de ces familles, d'abord, les parents donnent de petites sommes d'argent à leurs enfants de manière plus ou moins régulière. Alors, ça peut être pour les anniversaires, pour la perte des dents de lait, pour des sorties, on va au marché, enfin voilà, des sorties de ce type, ou alors, dans quelques cas, sous forme d'argent de poche régulier toutes les semaines. Par ailleurs, ils invitent leurs enfants à se servir de cet argent pour acheter des petits objets qu'ils réclament, et du coup, ils mettent assez régulièrement leurs enfants en situation de dépenser de l'argent. Dans certains cas, cette pratique, donner de l'argent régulièrement aux enfants et les inviter à l'utiliser, dans certains cas, ça résulte d'une volonté éducative tout à fait délibérée, apprendre aux enfants à gérer de l'argent. Et dans d'autres cas, qui peuvent être les mêmes, les deux ne sont pas exclusifs, cette pratique, elle résulte du souci qu'ont les parents de réguler de manière négociée les demandes de consommation de leurs enfants. C'est-à-dire qu'on est dans des familles qui font une très large place à la négociation, au dialogue, dans les relations avec leurs enfants. Et du coup, donner aux enfants des petites sommes d'argent comme ça et leur dire « tu vas payer toi-même ce que tu me demandes là », c'est un moyen pour les parents de refuser des dépenses qu'ils jugent illégitimes, typiquement des sucreries, des gadgets. Donc c'est un moyen de refuser cet achat, tout en autorisant quand même l'enfant à obtenir ce qu'il souhaite, en lui disant « moi je ne t'achète pas ça, mais tu peux l'acheter avec tes sous à toi ». Donc, ces parents donnent régulièrement de l'argent aux enfants, ils leur demandent de l'utiliser, mais ils ne font pas que ça. Ils les guident également dans l'utilisation de cet argent. Et en l'occurrence, ils font deux choses. D'abord, ils expliquent aux enfants que économiser de l'argent
Donc renoncer à des dépenses maintenant pour faire une dépense plus importante plus tard. Enfin, il leur explique ce principe-là, que le principe de j'économise maintenant et ça me permet d'acheter quelque chose de plus important plus tard. Et autre chose qu'ils font, c'est qu'ils leur suggèrent aussi régulièrement de mutualiser leurs ressources avec leurs frères et sœurs pour pouvoir s'acheter là aussi quelque chose de plus gros qu'ils ne pourraient pas s'acheter tout seuls. Dans les descriptions que les parents font de leurs enfants, on peut là aussi repérer les effets de cette socialisation et on peut repérer l'esquisse d'un rapport réflexif et planificateur à l'argent. Autrement dit, en dépit de leur jeune âge, plusieurs des enfants de ce groupe sont déjà capables de renoncer à des dépenses immédiates pour une dépense future. On le voit par exemple dans le cas d'une enfant qui a une position un petit peu particulière dans l'espace social. Elle est issue d'une famille homoparentale, elle a deux mères, et elle a une mère qui est professeure de français et une autre qui a un bac littéraire, qui a fait des petits boulots depuis sa sortie de l'école et qui est au RSA au moment de l'enquête. Et les deux femmes sont séparées. Donc on est bien du côté du pôle culturel des classes moyennes, mais avec en plus cette particularité d'une des mères qui est en situation d'assez grande pauvreté. Et chez la fille de ce couple, donc, on peut voir donc, des dispositions planificatrices qui se combinent avec un souci de ne pas peser sur le budget de ses parents, tout à fait analogue à celui qu'on repérait dans les familles précédentes que j'appelais populaires peu dotées économiquement. En l'occurrence, sa première mère, celle qui est enseignante, explique qu'à un moment donné, sa fille s'était mise en tête d'économiser son argent. Donc c'est une petite fille qui reçoit de l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sa mère explique qu'elle s'était mise en tête d'économiser son argent de poche au sens large, pour le donner à sa deuxième mère, parce qu'elle avait compris que sa deuxième mère avait des problèmes d'argent. Et donc elle disait à sa première mère, je vais économiser sur mon argent à moi, comme ça j'aiderai ma deuxième mère. Troisième lieu de l'espace social, troisième forme de socialisation, dans les classes moyennes et supérieures du pôle économique, cette fois-ci. Alors, ici, cette éducation à la gestion de l'argent ne se retrouve pas. Les parents ne donnent pas d'argent à leurs enfants, pas d'argent de poche, seulement de manière ponctuelle. Ils les invitent très rarement à dépenser eux-mêmes leurs sous pour acheter des petites choses, et ils ne leur donnent quasiment pas de conseils sur comment utiliser leur argent. À la différence des parents du groupe précédent, ces parents-là sont souvent convaincus que leurs enfants sont trop petits, trop jeunes pour faire ce type d'apprentissage. Et puis par ailleurs, ils ont beaucoup moins que les précédents l'habitude de négocier avec leurs enfants les demandes d'achat notamment, et donc ils ont aussi moins besoin de ce truc éducatif. Pour autant, on aurait tort de penser que ces parents-là ne disent et n'apprennent rien à leurs enfants en matière d'argent. Il se passe quand même bien des choses. Et pour le montrer, je vais distinguer les classes moyennes et les classes supérieures ici. Alors, d'abord dans les familles de classe moyenne, donc c'est mon troisième point, troisième type de socialisation. Là, la socialisation économique des enfants, elle se caractérise par une promotion de l'épargne. Ici, les parents sont tous actifs, occupés, avec des situations professionnelles stables. Ils travaillent comme petits indépendants, profession intermédiaire, employés administratifs. Ils sont moyennement dotés en capitaux scolaires, mais en revanche, ils possèdent tous un petit capital économique, immobilier ou professionnel, et parfois les deux, et qu'ils ont constitué précisément par la voie de l'épargne et de l'emprunt, et pas par la voie de l'héritage. Donc, en vantant auprès de leurs enfants les vertus de la thésaurisation, ces parents valorisent des dispositions dont ils ont eux-mêmes tiré profit sur le plan matériel et symbolique. Autrement dit, ils promeuvent les pratiques et les valeurs qui sont au fondement de leur propre statut social. Cette promotion de l'épargne, elle se traduit par trois ensembles de pratiques. D'abord, dans toutes les familles, les parents ont offert une tirelire ou un porte-monnaie à leurs enfants et ils les incitent régulièrement à mettre dans cette tirelire les petites pièces qu'ils peuvent trouver. Alors, soit les petites pièces qui leur sont offertes, ça arrive parfois, mais aussi les pièces qu'ils trouvent dans la rue, les pièces qui traînent dans leur poche, et qui leur disent bah, « tiens, j'ai ça dans ma poche, mets-le dans ta tirelire ». Voilà, ils les incitent régulièrement à stocker ces petites sommes d'argent. Ensuite, deuxième chose, ces parents, ils donnent à entendre à leurs enfants que accumuler de l'argent, c'est une perspective désirable. Et ça, on le voit notamment dans des scènes qui reviennent dans ces familles, où les parents racontent comment ils ouvrent la tirelire de l'enfant. On compte ce qui est le montant de la tirelire, et tout le monde se réjouit du fait qu'il y a beaucoup d'argent, que la tirelire était bien pleine. Et puis enfin, troisième chose, tous les parents de ce groupe ont également ouvert un compte d'épargne à leur enfant. Et dans certains cas, ils lui ont expliqué en détail le fonctionnement de ce compte d'épargne, en expliquant notamment le principe de l'argent qui peut rapporter de l'argent. Là aussi, ces invitations à l'épargne, elles ont des effets visibles sur les enfants. D'abord, les enfants de ces familles, et ça les distingue des autres, ils prennent un plaisir visible à accumuler et posséder de l'argent. Par exemple, ils ramassent systématiquement les pièces qu'ils peuvent trouver, je le disais, dans la rue, sur le comptoir de la boulangère. Voilà, ils ramassent et ils s'approprient ces pièces et ils les stockent dans leur tirelire. Autre chose qu'ils font, ils proposent assez régulièrement leurs services aux adultes de la famille en échange de rémunération. Donc, ils proposent de faire un petit travail, une petite tâche en échange d'une petite pièce. Et puis, ces enfants, autre exemple, ils aiment compter le montant de leur tirelire, ils aiment savoir combien ils ont. Première chose qu'on peut observer. Deuxième chose, plusieurs de ces enfants ont aussi des réticences fortes à se défaire de leur argent. Je vais l'illustrer avec un extrait d'entretien là aussi. C'est un petit garçon qu'on a anonymisé sous le nom de Thibaut. Ses parents sont agriculteurs, tous les deux. Et dans le moment où on aborde la question de l'argent, la mère donne des détails assez nombreux. Et par exemple, elle décrit le passage suivant. Elle dit, l'autre jour, il a ouvert son cochon. Et il a dit... T'as vu, avec un ton de satisfaction, et qui n'est pas une blague, hein, qui est très très sérieux. T'as vu ? J'ai dit oui, ça va. Hein. Des fois, ça lui arrive, il va vers son cochon, et là, elle mime l'enfant qui soupèse le cochon et qui est content parce que le cochon est lourd. Donc, il va vers son cochon, et puis, c'est bon, il est encore lourd. Et là non plus, l'enfant ne plaisante pas. Laurine, c'est-à-dire sa sœur, elle est pareille. Je me souviens, à l'âge de Thibaut, elle faisait pareil, elle sortait souvent sa tirelire pour voir. Une fois, je manquais de monnaie, je lui dis, écoute Thibaut, je me suis aperçu qu'il avait beaucoup de petites monnaies, je lui dis, je te fais l'échange, je te donne un billet, donc un billet de 20 euros, et je fais la monnaie avec les pièces que tu as. Alors il me dit, d'abord c'est pourquoi ? Alors je lui dis, c'est pour la boulangère, parce que la boulangère, quand on arrive avec un billet de 20 euros, bon, oui, mais alors tu vas me piquer mes sous, on va me prendre tous mes sous, et moi j'en aurai plus assez. Est-ce que tu es sûr que c'est bien la même somme ? Oui, Thibault, là ce que j'étais pris en petite monnaie, c'est l'équivalent de ce billet-là. T'es sûr, parce que moi je veux garder mes sous. Et dans tout ce passage-là, on comprend que l'enfant a effectivement un ton inquiet. Enfin, quatrième forme de socialisation, dans les familles maintenant de classe supérieure du pôle économique, ici les discours qui sont tenus aux enfants sur l'argent sont propices à la constitution d'une aspiration à la richesse. Ici, les parents sont chefs d'entreprise, membres des professions libérales ou cadres supérieurs dans le privé. Ils ont tous un niveau de vie élevé et ils ont tous des trajectoires fortement ascendantes sur le plan économique. Et donc, au moment de l'enquête, ils ont des conditions matérielles d'existence bien plus confortables que celles qu'ils ont connues dans leur propre enfance. En lien avec ces propriétés sociales, ces parents consacrent de nombreuses dépenses à leurs enfants. Ils se réjouissent de pouvoir offrir à leurs enfants un confort matériel dont ils n'ont pas bénéficié eux-mêmes. Mais en même temps, ils veulent aussi que leurs enfants aient conscience que ce confort est le produit d'un travail. L'enfant gâté qui obtient tout sans effort et sans avoir conscience de l'effort fait ici figure de repoussoir. Et donc, ils leur tiennent régulièrement des discours qui vont dans ce sens. On lui répète tous les jours qu'il faut beaucoup travailler pour avoir de l'argent. On ne veut pas qu'elle croie que ça tombe comme ça. On lui explique que si elle a tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille, dit cette mère qui est avocate d'affaires. Une autre, on lui dit, tu sais, pour payer ça, papa et maman, ils ont travaillé toute la journée. Là, on a une maison, c'est que papa et maman travaillent beaucoup. Là, on mange des fruits et légumes, les autres, ils n'ont pas tout ça. Si tu veux partir en vacances, papa et maman, il faut qu'ils travaillent, dit cette mère qui est gérante d'une entreprise de 10 salariés. Or, ce qui se transmet aux enfants à travers ce type de discours, c'est précisément une définition de la richesse comme perspective évidemment désirable. Avoir des revenus importants et un confort élevé, une grande maison, manger des fruits et légumes, partir en vacances, etc., n'est pas présenté comme une manière de vivre parmi d'autres, mais comme la seule forme d'existence envisageable. Par ailleurs, à travers ces discours sur l'argent et le travail, c'est aussi une socialisation politique qui est à l'œuvre. Ce que véhiculent ces discours, c'est en effet aussi une légitimation de la richesse. C'est aussi une légitimation de la richesse et en même temps, et d'une manière qui n'est pas forcément consciente, une réprobation morale de la pauvreté. Expliquer aux enfants que la richesse, c'est le produit du travail, c'est leur dire que l'aisance matérielle est légitime en tant que juste récompense de ce travail, et c'est leur dire dans le même temps, en creux, que la pauvreté est une conséquence de la paresse. Dans les discours que les parents de ces familles tiennent à leurs enfants, cette conception de la pauvreté, elle est du reste parfois tout à fait explicite. La première mère que je viens de citer ici, celle qui est avocate d'affaires, raconte que quelque temps avant un des entretiens, elle a croisé un clochard, c'est le terme qu'elle emploie dans son quartier, et qu'elle a expliqué à sa fille que ce clochard vivait dans la rue parce qu'il n'avait pas eu de chance, mais aussi parce qu'il n'avait pas assez travaillé à l'école. Donc, en simplement une minute, ce qu'on a essayé de montrer dans ce travail, enfin ce que j'espère avoir montré, c'est que la socialisation à l'argent, c'est un processus qui débute donc à un âge précoce, bien avant de savoir compter et de comprendre le fonctionnement de la monnaie. La plupart des enfants sont amenés à manipuler de l'argent, à voir leurs parents en faire usage, à entendre un ensemble de discours à ce sujet. Et ces expériences-là, donc elles contribuent à la construction de connaissances et de représentations de l'argent, mais elles contribuent aussi vraisemblablement à faire connaître, à faire toucher du doigt aux enfants l'existence des hiérarchies sociales et la place qu'ils occupent dans ces hiérarchies. Merci.
Excusez d'avance, c'est la première fois que je parle devant autant de monde. Donc c'est assez stressant pour moi. Merci de nous accueillir aujourd'hui et puis de nous permettre de parler de notre recherche en cours. Alors c'est la première fois qu'on vient discuter de cette enquête avec Margot. C'est une recherche qui est intitulée « L'attrait de la pierre, les investissements immobiliers des classes populaires et moyennes dans une petite ville ». Donc en fait, cette recherche porte sur la propriété locative. On a débuté celle-ci l'automne dernier. Pour Margot, c'est dans le cadre d'un projet d'après-thèse et pour moi, dans le cadre de mon mémoire de master. Alors, il faut savoir qu'en France, plus de 2 millions de particuliers propriétaires bailleurs cherchent à tirer des revenus locatifs des logements qu'ils possèdent. Alors que ce sont surtout les bailleurs les plus aisés, disposant d'un patrimoine dans les grandes villes qui ont historiquement représenté la catégorie, on peut se demander comment expliquer la diffusion de la propriété locative parmi les classes populaires et moyennes qui résident dans d'autres contextes urbains. Et quel rapport est entretenu avec cette forme d'investissement ? Dans cette communication, nous n'allons pas aborder l'influence des politiques publiques telles que les dispositions fiscaux d'incitation à l'investissement locatif, mais nous allons chercher à retracer les dynamiques socialisatrices, familiales et professionnelles et locales, à l'origine des investissements dans un bien locatif et des pratiques immobilières de bailleurs qui appartiennent aux classes populaires et petites classes moyennes dans une petite ville de Loire-Atlantique. Donc c'est l'un des 4 terrains d'enquête de Margot et c'est le principal pour moi. Alors Monet-en-Loire, c'est une petite ville de 12 000 habitants située à distance de 3 grands pôles économiques et dans un territoire à dominante rurale. Sa population est vieillissante et les ménages retraités et ouvriers y sont prédominants, de même que les non-diplômés et les diplômés de l'enseignement professionnel. Monet-en-Loire compte de nombreux logements vacants, en particulier dans le centre-ville. Ce sont souvent des petits logements et dans des immeubles très anciens. Et comme la population est assez vieillissante, en fait, ils sont plus à la recherche de logements un peu plus grands, parce qu'on a beaucoup de studios, de T2, et aussi où il y a des commodités telles que les ascenseurs, alors qu'à Monet-en-Loire, les centres-villes, c'est de l'ancien bâti. Les prix de l'immobilier se maintiennent à un niveau assez bas, 9 euros du mètre carré pour la location d'un appartement et 1 500 euros du mètre carré à la vente, contre plus de 12 et 3500 en Loire-Atlantique. Nous avons débuté notre enquête par entretien auprès de 9 bailleurs, dont 2 couples. C'est le début de notre enquête, donc c'est pour ça qu'on a si peu, enfin qu'on n'a pas une exhaustivité, c'est comme ça qu'on dit. On n'a pas plein d'entretiens, mais voilà, c'est à but d'en avoir beaucoup plus. Dans 2 cas, des appartements mis à location ont pu être visités, et comme le terrain est toujours en cours, ce que je disais, nous espérons systématiser davantage ces visites par la suite. Les propriétaires ont été contactés par l'intermédiaire de nos réseaux personnels et d'annonces de location passées sur le site Le Bon Coin. Là encore, le mode de recrutement a vocation à être diversifié. Les individus interrogés pour cette recherche sont issus de classes populaires ou de fractions basses des classes moyennes. Pour la majorité, 6 sur 8, les parents exerçaient un métier d'agriculteur, d'ouvrier ou de petits employés et n'ont reçu qu'une faible instruction scolaire, soit autant de caractéristiques propres aux classes populaires. Par exemple, les parents de Jérôme Picard et d'Hélène Pelletier, donc on a anonymisé les noms, étaient agriculteurs exploitants. Les parents de Laurent Bénard étaient eux ouvriers mécaniciens et dactylos. Ceux d'Éric Frein étaient respectivement ouvriers dans le bâtiment et employés de ménage. En outre, les expériences de l'instabilité économique, voire de précarité dans ces familles et pendant l'enfance, sont assez fréquentes. Additionnées à la faible valeur des diplômes, souvent professionnels et dans le domaine de l'artisanat et du commerce, cette caractéristique a fortement participé à l'autonomisation précoce et rapide de certains de nos enquêtés, comme nous le verrons dans la première partie. La deuxième partie sera consacrée, Margot présentera la deuxième et la troisième partie, et la deuxième partie sera consacrée à la proximité de nos enquêtés avec une élite économique locale qui favorise l'entrée dans la propriété locative. Et dans notre dernière partie, nous décrirons un peu plus les pratiques immobilières des propriétaires bailleurs en expliquant les raisons et leur fort investissement dans cette activité. La première partie sur les expériences d'incertitude et aspiration à l'autonomie. Voilà. Alors que nos enquêtés ne sont pas des héritiers, il s'agit dans cette partie d'identifier les motivations et les modalités de leur entrée dans la propriété locative. Nous chercherons donc à comprendre ce qui, dans les socialisations familiales et professionnelles en particulier, dispose à investir et comment. Nous retracerons notamment la genèse de l'aspiration à être économiquement autonome, déterminante dans la constitution du patrimoine immobilier de nos enquêtés, en soulignant le poids de l'expérience de l'incertitude. Pour la majorité de nos enquêtés, l'autonomie financière est une volonté qui résulte d'une enfance marquée et ponctuée par des formes de précarité. Nous prendrons l'exemple de René Mézot, un négociateur immobilier à la retraite, âgé de 72 ans et ayant vécu la plus grande partie de sa vie à Menay-en-Loire. Son enfance a été marquée par sa position d'aîné d'une fratrie de 6. Son père était garde-barrière et sa mère au foyer. La famille n'avait pas beaucoup de ressources. Dès petit, il fut obligé de s'impliquer dans des tâches domestiques. Par exemple, c'est lui qui allait signaler le passage du train. La famille habitait dans une maison de garde-barrière. Et c'est lui qui récupérait aussi le charbon lancé par le cheminot à destination de son père afin de disposer d'un matériau de chauffage pour l'hiver. Il voulait suivre la voie de son père à la SNCF, mais sa mère préfère qu'il fasse un apprentissage dans la boulangerie pour percevoir un salaire qui contribue aux dépenses de la famille. Il raconte pendant ses années d'apprentissage où il était logé et nourri par son patron, qu'il était, je cite, « soutien de famille » et que sa mère venait chercher sa paye tous les mois. Pour sortir de cette condition et s'émanciper, il décide de se mettre à son compte et d'ouvrir sa propre boulangerie. Cette aspiration à se dégager d'une condition précaire par l'indépendance économique le fait travailler très jeune et durant de nombreuses années avec beaucoup d'acharnement et dans une posture qu'il qualifie de débrouille. Cette expérience de début le marque profondément et il ne cesse au cours de l'entretien à opposer sa trajectoire à celle d'héritier qu'il qualifie de personne née avec la facilité. L'envie de se mettre à son compte est par ailleurs renforcée par le fait que ces situations d'instabilité perdurent au cours de la vie professionnelle chez certains de nos enquêtés. Par exemple, les employeurs d'Éric Frein, un négociateur immobilier de 42 ans, ont mis brutalement fin à son contrat et ne lui ont pas versé l'intégralité des honoraires qu'il aurait dû toucher sur les ventes qu'il avait accomplies. Ça correspond à peu près à une somme de 40 000 euros. Dans ces deux cas de figure, donc on voit avec Éric Frein et René Mézeau, l'expérience prolongée et renouvelée de l'adversité pendant l'enfance et à l'âge adulte, en famille et au travail, participe au renforcement d'un sentiment qu'on ne peut compter que sur soi pour s'en sortir. Dans cette perspective, le patrimoine immobilier semble assurer une fonction assurantielle. Il s'agit de prévoir qu'on pourra, faute d'héritage, pallier au coup dur et anticiper sa retraite par ses propres moyens. Hélène Pelletier, une de nos enquêtées, qui a 62 ans, je crois, nous dit « Moi, c'était surtout pour ma retraite, parce que les retraites de commerçants ne sont pas extraordinaires, donc c'était surtout en prévision d'une retraite. » René Maison lui dit « Moi, j'ai toujours pensé à l'avenir, et heureusement, parce que maintenant, ce qu'ils sont en train de faire sur nos retraites, ben, on ne peut pas vivre, c'est un baisse-couillon des retraites. » Donc, ici... on rejoint les analyses de Sarah Abdelmour et d'Anne Lambert sur l'entreprise de soi. Elle montre que c'est à travers la mobilisation des ressources privées que l'individu accède à une autonomie en lien avec la mise en œuvre de l'État, de politique, de politique d'invention à l'autonomie, renforçant la rhétorique de responsabilisation des classes populaires. Pardon.
Merci. Donc... comme on vient de le voir, les socialisations familiales agissent de façon indirecte sur les aspirations à l'indépendance et à l'entreprise de soi, qui sont elles-mêmes favorables à la propriété locative. Et ça s'explique par le fait que nos enquêtés ne sont pas issus de lignées de bailleurs, voire de lignées de propriétaires tout court, puisque par exemple les parents d'Éric Frein ont toujours été locataires de leur résidence principale. En revanche, les parcours de nos enquêtés... Vous m'entendez ou faut que je me rapproche ouais. En revanche, les parcours de nos enquêtés ont été marqués par des socialisations plus explicites, aussi bien à l'indépendance qu'à la propriété locative, par le biais de la proximité avec une élite économique locale, et c'est ce qu'on va montrer dans cette deuxième partie. Ainsi, la figure du patron ressort beaucoup de l'entretien avec René Mézeau, dont on a déjà parlé. Alors, les patrons de René, donc il les qualifie comme ça, ses patrons dans la boulangerie puis dans le monde de la construction, donc les deux univers professionnels qui traversent, l'ont explicitement incité à se constituer un patrimoine professionnel propre. C'est d'abord passé par le fait de reconnaître la valeur de son travail en se l'arrachant presque, donc je cite René Mézeau, « Tous les patrons, ils me voulaient. » Parlant d'un autre patron, « Il est venu me chercher. J'ai tellement entendu parler de vous pendant 7 ans par votre beau-père que je vous veux. » Être ainsi désiré a donné à René un fort sentiment de légitimité, une confiance dans ses aptitudes professionnelles. Et de façon plus explicite, le premier boulanger chez qui il a travaillé l'a enjoint à avoir sa propre boulangerie à 20 ans plutôt que de se salarier chez quelqu'un d'autre. Donc René explique qu'il m'avait dit « faut que tu t'installes ». Et ce patron l'aide à toutes les étapes de son installation, notamment pour choisir une boulangerie. René explique que je l'ai acheté parce qu'il m'a dit « ça, c'est impeccable ». Alors cette entrée dans le monde de l'indépendance le conduit ainsi à gérer une équipe, un emploi du temps, à s'insérer dans un espace où la concurrence avec les autres boulangers est forte, et où il lutte dans son récit pendant 7 ans pour conquérir la clientèle. Et plus tard, alors qu'il travaille dans une autre entreprise de construction, de nouveau, un autre employeur le débauche en l'incitant à s'associer avec lui, en lui disant « finalement, tu te fais chier à bosser pour les autres ». Alors, en quoi ces rencontres transforment-elles nos enquêtés en bailleurs ? Déjà, on retrouve, dans les entretiens qu'on a menés avec eux, la disposition à capitaliser, c'est-à-dire à accumuler un capital dans l'optique d'en tirer un rendement, donc dans le vocabulaire de René Mézeau, « amplifier plutôt que gaspiller ». Hélène Pelletier, qui a épousé le gérant d'un concessionnaire auto dont elle a pris la suite à son décès, l'exprime de façon très explicite. « J'avais compris qu'en empruntant et en louant, ça nous permettait de capitaliser. » Et Marion Mamou explique, elle, son refus de vendre son bien locatif par l'idée que l'argent doit être employé utile. Et elle dit « ça sert à rien que je vende cette maison-là pour récupérer de l'argent qui reste sur mon compte. » De la même manière, on peut questionner les aspirations à réaliser un coût, c'est-à-dire un investissement qui comporte une dose importante d'improvisation et d'incertitude, et qui ressort, et là on cite le travail de Marie-Pierre Lefebvre sur les femmes bailleresses, qui ressort d'un raisonnement spéculatif sur la rentabilité de la pierre. Alors cette logique du coût ne se retrouve pas pour les bailleurs qui ont hérité, mais elle semble prégnante pour ceux qui ont acquis par eux-mêmes leur patrimoine locatif. Ces coûts apparaissent très liés au contexte local, et ce, à deux niveaux. Alors, Monet-en-Loire, dont Julie a présenté les principaux traits, c'est une petite ville qui a connu en fait, des évolutions démographiques et morphologiques qui sont propices à l'arrivée sur le marché de biens centraux et peu onéreux, de biens immobiliers, puisque ni la frange croissante de sa population vieillissante, ni les ménages avec enfants ne sont attirés par les maisons bourgeoises de centre-ville, donc les maisons nantaises, pour ceux qui connaissent un peu l'architecture de l'Ouest, qui comportent des perrons et des demi-étages. Par contre, les maisons plus récentes de plein pied, plus en périphérie, sont vraiment plébiscitées à la fois pour la vente et pour la location. Alors, ce contexte a été ainsi source d'opportunités d'achat de ces maisons, de découpe de ces maisons, et puis de revente ou de location des différents appartements qui étaient créés à l'intérieur de ces maisons du centre. Et ça explique en partie le nombre très élevé de biens de nos enquêtés au regard des moyens nationaux, puisque René Maizot a disposé à un moment jusqu'à une vingtaine de biens. Il n'en a plus que sept aujourd'hui. Et Jérôme Picard en a aussi une vingtaine, et un troisième enquêté, Laurent Bénard, en a une trentaine. Donc c'était vraiment des chiffres très importants, un volume très important de biens immobiliers. Alors, outre cette aspiration au coût, René Maizot parle d'imagination et du fait que la vie, c'est en permanence avoir des idées. L'ancrage spatial que Lise Bernard avait décrit comme l'une des pierres angulaires du travail des agents immobiliers est aussi un élément déterminant. D'une part, l'enracinement dans les sociabilités de l'espace local est ce qui permet d'entendre parler des coûts à faire, donc c'est-à-dire des biens qui se vendent pas très cher. Et d'autre part, ce même enracinement est un vecteur de socialisation à la propriété locative par le contact avec des figures d'investisseurs locaux. Donc on voit cette proximité avec l'élite économique locale est très importante pour comprendre comment nos enquêtés entrent dans la propriété locative, mais aussi comment ils deviennent bailleurs, c'est-à-dire comment ils apprennent finalement à mettre en marché leurs biens. De ce point de vue, ils ont comme particularité centrale de gérer pour l'essentiel tout seul leur activité locative, donc de ne pas passer par un intermédiaire, type agent immobilier. Alors, c'est lié à ces socialisations à l'autonomie, à la contrainte budgétaire, bien sûr, que représentent les frais d'agence, mais c'est aussi lié à d'autres socialisations qu'on va développer dans cette troisième partie et qui expliquent en partie pourquoi la pierre, notre communication en fait, s'appelait l'attrait de la pierre et on a oublié de vérifier, donc ça a sauté, mais l'idée, c'était bien d'expliquer pourquoi la pierre ce qu'on appelle la pierre est un domaine d'investissement privilégié. Et en fait, par ces enquêtés, c'est privilégié au point d'être parfois présenté comme une véritable passion. Donc on retrouve ce lexique, par exemple, avec Hélène Pelletier qui nous dit « Moi, je suis passionnée d'immobilier, je suis passionnée de pierre. C'est moi qui gère la SCI, c'est moi qui gère tout, voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est passionnant. » Et Jérôme Picard dit, lui, qu'il a attrapé le virus. Alors, contrairement à l'univers de la finance, mais c'est vrai que les communications qu'on a entendues depuis deux jours nous font un peu relativiser cette opposition entre finance pour les classes très supérieures et puis immobilier pour les milieux plus moyens et populaires. Mais c'est un truc qu'on avait repéré dans les Pinsons Charlot, les millionnaires de la chance, qui expliquait comment pour les gagnants du loto, l'immobilier attirait par son caractère concret et palpable. Donc, du coup, nous, dans notre terrain, on a essayé de préciser cette idée de caractère concret et palpable qui attire les classes populaires et moyennes en lien avec deux dispositions de classe. D'une part, l'immobilier serait l'occasion de réaliser ou renforcer ce que Vilaine Girard, Anne Lambert et Hélène Steinmetz ont appelé un capital technique de bâtisseur. Et d'autre part, les interactions entre bailleurs et locataires mettent en jeu des dispositions relationnelles qui montrent une diversité de logiques de marquage de l'immobilier par ces enquêtés. Alors, premièrement, l'immobilier permet aux personnes, et en particulier aux hommes, qui disposent d'un capital technique de bâtisseur, acquis au cours d'expériences de construction à la fois familiale et professionnelle, de faire fructifier ce capital et puis de déployer un goût pour la bricole dont Michel Véret et d'autres ont montré combien il était lié aux classes populaires. Pour plusieurs enquêtés, ainsi, il n'a pas été envisagé de déléguer les travaux, au moins des premiers biens achetés. Donc, Laurent Bénard, qui dispose, on l'a dit, d'une trentaine d'appartements, valorise ainsi aussi bien l'économie réalisé que le don de soi et de son temps lors de ses activités de bricolage, dit « J'ai acheté un premier appartement, tout bêtement, que j'ai rénové le soir et le week-end. Je l'ai loué et quelques années après, j'en ai acheté un deuxième en le rénovant avec mes mains. Et l'économie est là dans les travaux, tout simplement. » Et puis pour d'autres, même s'ils ne rénovent pas tout, les savoir-faire de bricoleurs leur permettent de ne pas être dans la complète remise de soi aux artisans qui sollicitent. Deuxièmement, cette relation locative qui se passe d'intermédiaire met en jeu une diversité de savoir-faire d'ordre relationnel, puisque nos enquêtés se sentent capables en fait, de sélectionner eux-mêmes leurs locataires et de gérer le risque d'impayé qui est sous-jacent à cette opération. Pour eux, l'enjeu principal, c'est bien sûr d'arriver à estimer la fiabilité des potentiels locataires. Et dans cette opération de classement, le critère des ressources, donc, qui est objectivé par les documents qu'il est possible également de demander, donc, c'est-à-dire les trois derniers bulletins de salaire, justificatif de domicile, carte d'identité et ces mêmes documents pour le garant éventuel. Ce critère des ressources s'articule en fait avec d'autres catégories qui ressortent davantage de ce que nos enquêtés appellent unanimement le feeling. Et par exemple, la question de la propreté est érigée par plusieurs d'entre eux comme ligne de démarcation entre les locataires désirables et indésirables. Et au-delà, en fait, de la dimension d'entretien et de valorisation du patrimoine immobilier, pour Hélène Pelletier, il s'agit d'une véritable éthique dont elle déplore l'absence chez le locataire qui lui aurait causé de la désillusion. Et René Maizeau nous explique comment il évalue cette propreté. Donc, je lui demande, et comment vous faites pour évaluer la propreté a priori, donc avant que le locataire soit dans les lieux ? Ben, donc là, il rigole. Il y a des fois un peu quand les gens, ils arrivent tout crado. Donc là, je leur lance. Donc, vous regardez comment ils sont, eux. Déjà, et aussi, je les attends sur le parking dans ma voiture. Je les vois aller vers l'immeuble. Et tu vois la voiture qu'ils ont. Quand c'est une poubelle, tu te dis, il ne doit pas faire le ménage souvent. Les carreaux, tout ça, ça ne va pas l'intéresser. Quand tu vois que le gars, il a une voiture, même une voiture vieille, mais propre, tu passes à côté et tout. On voit bien qu'il a passé l'aspirateur dedans. C'est un gars qui risque de faire ce truc propre. Alors, la dimension morale du classement des locataires qu'on saisit dans ce critère de propreté, en fait, elle est encore plus apparente lorsqu'il est question de leur autonomie économique. Et à cet égard, la figure du casseuse a été récurrente dans beaucoup de discours de nos enquêtés. Donc là, on repose à Eric Frein, cette fois, une question assez similaire sur quel profil de locataire il retient. Non, à quel profil de locataire il est confronté. Il dit 80% de casseuse. Quand le gars ne compte que sur ses APL, ça veut dire « je suis un rebut de la société, je ne vis que sur le dos de la société, je ne veux même pas faire d'efforts, je vis aux frais de la communauté, je considère que je n'ai aucune responsabilité. J'ai tendance à éliminer direct, il n'a aucun sens de sa responsabilité de locataire. » Alors, davantage, en fait, ce qui est intéressant, c'est que davantage que par la précarité économique, en fait, la figure du casseuse, elle est caractérisée, on le voit, par la dépendance aux aides institutionnelles, et dans une moindre mesure, on n'a pas le temps de les développer là, mais c'est un truc qu'on voit un peu dans nos entretiens, par l'extériorité au contexte local. Alors, on n'a pas le temps de développer non plus la question des rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans la relation locative, et c'est vrai que ça rentre peut-être un peu moins dans le cadre de ces journées. Mais ce qu'on commence à y voir, c'est qu'il y a une tension entre affrontement et empathie, en fait, dans ces relations. Ouais, et du coup, ça nous conduit à souligner, pour finir cette partie, combien les modes d'évaluation de la fiabilité économique des locataires, en fait, sont... Ici, il y a une diversité de critères, en partie liés à la propre trajectoire de nos enquêtés. Ce qui contraste avec la rationalité en finalité et le réalisme économique des agents immobiliers auprès desquels Lise Bernard avait enquêté. Et je vais passer la parole à Julie pour conclure.
Alors, pour conclure, ce que nous vous montrons à travers ce travail, donc c'est la pluralité des dynamiques socialisatrices qui favorisent l'entrée et le maintien dans la propriété locative de bailleurs issus de classes populaires et de petites classes moyennes, en complément, bien sûr, de toutes les politiques d'incitation, d'accession, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Quand on parle des pluralités des dynamiques socialisatrices, donc on voit qu'à travers en fait, l'expérience familiale, ce qu'on n'a pas montré enfin, juste avant, c'est que l'expérience familiale en fait, peut être pas vécue directement par la personne elle-même, mais peut être vécu par ses parents, à travers ses parents, etc. Cette dimension de précarité, eux ne le vivent plus maintenant, mais ont pu le vivre, ont vu leurs parents vivre cette chose-là. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. oui, en fait, c'était pour montrer qu'il y avait plusieurs dynamiques et donc que la famille participe, en fait, plus ou moins directement. À la fabrication et à l'entrée de la propriété locative, de même que le milieu professionnel, mais aussi la localité. Pour conclure, on voudrait aussi insister sur une piste importante d'approfondissement de questions et de l'enquête. Nous en avons un peu parlé à rôle oral, mais c'est une dimension qui est un peu plus développée dans le texte qu'on avait écrit avant. Pour les bailleurs que nous avons rencontrés, l'activité immobilière peut être envisagée comme une socialisation secondaire dans la mesure où les expériences de location, les interactions avec les locataires et les acteurs de l'immobilier ou institutionnel ont participé à la transformation de leurs dispositions immobilières. C'est un aspect que nous comptons creuser dans les entretiens avec d'autres profils de bailleurs, notamment ceux qui passent par un intermédiaire, et aussi dans les entretiens qu'on a débutés, avec des agents immobiliers, des notaires et des acteurs institutionnels et associatifs. Merci pour votre attention et toutes les pistes que vous pourrez nous suggérer pour la suite.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui.